Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 666 du podcast John Actu. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux et je vois que mon collègue en face de moi trépigne. Épisode 666 du podcast John Actu, Victor Roulier à mes côtés. Bonjour Victor.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Ça va, tu crains pas trop
Non, ça va. Bon, j'ai beaucoup de superstitions, mais celle-là, ça va.
Bon, alors ça ira très bien, d'autant qu'en effet, on parlera de nouvelles plutôt positives du côté de Philadelphie, donc ça se présente plutôt pas mal. Les Ravens qui frappent un grand coup, les Eagles plus solides que jamais, et une affiche offensive, pas si offensive que ça au programme aujourd'hui. On commence directement avec le match entre les Baltimore Ravens et les Seattle Seahawks, 37-3 pour Baltimore. Les Ravens qui sont bouillants, ils avaient roulé sur les Lions en semaine 8, cette fois c'est sur les Seahawks qu'ils se sont défoulés, 17-3 à la fin du premier quart, 30-3 à la pause, et même un touchdown d'Odell Beckham pour terminer le match, son premier touchdown depuis le Super Bowl gagné avec les Rams, 298 yards rien qu'au sol, une défense impitoyable. On a l'impression, Victor, qu'ils ont retrouvé leur force et leur identité, ces Ravens.
Ils sont absolument incroyables des deux côtés du ballon. Tu disais 298 yards au sol, c'était même 300 avant qu'ils fassent des quarterback kneel, mon cœur de comptable a saigné. 300 toupies, c'était très beau. Keaton Mitchell, si tu veux, tu as des équipes comme ça, où tu as l'impression que tous les ans, ils vont te trouver un running back sorti de nulle part qui va faire de choses. C'est un peu comme les receveurs chez les Steelers, tu vois, ce genre de choses. Bah écoute, Keaton Mitchell, excellent. Lamar Jackson, très bon aussi. Gus Edwards, toujours aussi efficace, notamment dans la zone rouge. Lamar Jackson qui fait ce qu'il faut, en total contrôle, il n'essaye pas d'en faire trop. Il n'essaye pas de jouer au héros, il n'essaye pas de se mettre en lumière. Il fait juste avancer son équipe de façon méthodique. On sent que l'attaque de Todd Monken, elle est maintenant parfaitement maîtrisée par l'ensemble des joueurs. Et il arrive à impliquer tout le monde. Marc Andrews, Odell Beckham, Isaiah Axey, Rashad Bateman. Je veux dire, globalement, cette attaque, le seul petit bémol, c'est les fumbles. Ils en perdent quand même deux de mémoire. Bon, voilà. Oh, ok, ça arrive un match où tu perds des ballons. Mais sinon, la prestation, elle est juste parfaite. C'est un récital.
Lamar Jackson dans un fauteuil, en effet, 21 sur 26, 187 yards. Pas de touchdown, pas d'interception. Il a aussi gagné 60 yards rien que sur 10 courses. Marc Andrews aussi revient bien. Il avait été un peu plus discret en début de saison. 9 réceptions pour 80 yards là-dessus. Donc tout roule, j'ai envie de dire, pour Baltimore. Qu'est-ce qu'il y a à analyser de plus que tout roule?
Bah, c'est la meilleure équipe de NFL du mois d'octobre. Hein. Bon, ah, si ouais, on inclut cette semaine, allez, on va dire que c'est octobre. Hein.
C'était ma question de fin, en effet, mais on peut y aller tout de suite. C'est la meilleure équipe NFL du moment.
Oui. Ah bah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, autant on peut se poser la question sur qui est la meilleure équipe de NFC Et on a vu hier qu'il n'y a pas une grande différence entre les différents favoris. Autant en AFC, à part les Bengals qui reviennent voilà, comme des fusées après un début de saison loupé, bah, globalement, la dynamique de Baltimore, elle est incroyable. Et je trouve qu'elle est incroyable en attaque comme en défense. Parce que quand tu regardes en défense aussi, on dit Geno Smith, il n'a pas fait un bon match, ils ont marqué que 3 points. Mais Geno Smith, il avait 2 gars sur le dos à chaque action. Donc il a fait un mauvais match parce que Baltimore lui a fait faire un mauvais match. Et je les trouve incroyables, surtout que vraiment, la pression vient de partout. Partout, même Kyle Van Noy est ressuscité.
C'est vrai, 2 sacs pour Kyle Van Noy, le joli coup qu'ils avaient récupéré fin septembre. Hein. Kyle Van Noy, il n'était même pas dans l'effectif au début de l'année. Et après, tu le dis bien, il y a un côté rouleau compresseur en attaque dont on a parlé avec les yards au sol, avec Lamar Jackson qui est plus tranquille, etc. Et puis derrière, en défense aussi, 54,5% de pression sur Geno Smith, c'est-à-dire sur 54,5% de ses tentatives de passe, il était sous pression. Et puis en plus, bah, t'as stoppé le jeu au sol tôt, ils sont vite menés. Donc tu les rends unidimensionnels avec Geno Smith qui est obligé de passer. Et en plus, bah, tu peux lui mettre la pression encore plus. C'est un cercle vertueux hein, quand tu joues ce genre de match-là. Donc Smith, ça lui fait un 13/28 pour 157 yards, aucun touchdown, une interception. Et c'est vrai que c'est pas faute d'avoir des cibles en plus. Hein. C'est quand même une des équipes qui a le meilleur groupe de receveurs. Si tu fais le compte, les rookies se débrouillent bien en plus. Donc il est bien défendu. Donc ça veut dire que t'as pas d'inquiétude si on va du côté de Seattle sur les prestations récentes de Geno Smith. Là, il ne peut rien faire sur ce match.
Pas sur ce match-là. Honnêtement, il est juste dans un rouleau compresseur. Et à un moment, quand tu te fais fracasser la tête encore et encore et encore, tu finis par faire des bêtises, quoi. Bon, je veux dire, non. Autant il y a d'autres matchs où j'ai un petit peu plus tiqué, autant là, il s'en est juste pris plein la tronche, quoi. Donc, je j'ai pas trouvé particulièrement que c'était inquiétant. Je trouve beaucoup plus inquiétant, surtout connaissant Pete Carroll, la sous-utilisation du jeu au sol. Ça, ça m'inquiète beaucoup plus.
Bah après, encore une fois, ça allait vite. Tu me diras, ça fait punt quand même au début du match. Ça commence par 3 punts pour les Seahawks et 2 pour les Ravens. Donc il y a un peu de temps, mais c'est vrai que derrière, bon, ça a un petit peu enchaîné. On l'a dit, il y a 17-3 à la mi-temps, donc ça te rend un peu plus unidimensionnel. On dit Geno Smith en ce moment, etc. Bon, il vient de jouer coup sur coup les Browns et les Ravens. Donc au niveau des défenses. Tu peux l'excuser d'être un poil moins affûté. Du côté des Ravens, on a battu toutes les équipes en positif qu'on a jouées depuis le début de l'année. Donc, on ne peut même pas dire que ce soit le calendrier qui les mette à 7-2. Donc, on reste là-dessus. C'est la meilleure équipe AFC et NFL du moment. Du coup, même au-dessus de celle dont on va parler après.
Oui.
Mieux que les Eagles.
Oui.
Très bien. Eh bien, la transition est toute trouvée. Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, 28-23 en faveur de Philadelphia. Un match de très haut niveau qui s'est joué sur des détails. Dallas a eu 2 fois le ballon en fin de match pour tenter de passer devant. Ils ont échoué sur 4e tentative la première fois. CeeDee Lamb a perdu le ballon sur la dernière action du match. Victor, est-ce que c'est l'équipe la plus réaliste qui a gagné?
Je sais pas. J'ai quand même l'impression que c'était deux équipes qui, à la fin, ne voulaient pas vraiment gagner et qu'il a fallu un pile ou face. Ça a été un match de très haut niveau qui s'est joué à des détails, notamment du côté de Dallas, Shoemaker qui ne marque pas le touchdown pour 3 cm, Dak Prescott qui met un bout de pied en touche. C'est vraiment une équipe de Dallas qui a un peu laissé passer sa chance, comme tu l'as dit au début. L'équipe la plus réaliste, peut-être, en tout cas, l'équipe qui a fait le moins de petites erreurs individuelles. Mais il y a quand même un facteur chance du côté des Eagles parce qu'ils font 3 fumbles et ils récupèrent les 3. Bon, là encore, hein, tu vois, c'est le genre de petits détails où t'en perds juste un. À mon avis, tu peux perdre le match. Donc, non, je dirais que ça a été un beau match entre 2 belles équipes qui ont un peu galéré sur la fin, mais entre 2 belles équipes et il fallait un vainqueur. Mais il y a 2 vainqueurs moraux, si je peux m'exprimer.
Je parle du réalisme parce que c'est vrai que en effet, Philadelphia a récupéré ses propres fumbles, mais du coup, Dallas perd le seul ballon du match. Ils ont été 5 fois dans la zone rouge, mais ils marquent que 3 fois. Ils ont raté une conversion à 2 points. Tout ça alors qu'ils ont gagné plus de yards que Philadelphie, même assez nettement, hein, 406 à 292. C'est pour ça que je suis, tu vois, sur ces petits détails. Ils ont peut-être raté aussi quelques occasions de prendre ce match. Coup de chapeau évidemment à la défense de Philadelphie, parce que si Dallas cale dans les moments décisifs, c'est aussi à cause de la défense de Philadelphie.
Oui, écoute, c'est un peu la marque de fabrique de cette équipe défensivement cette année. Ça galère. Pendant 2-3 quarts temps, CeeDee Lamb était inarrêtable. Faut dire que mettre un rookie sur lui alors que Tassé et Bradberry, c'est un peu discutable, mais le pauvre Eli Ricks y a passé une sale soirée. Mais globalement, les Cowboys étaient en contrôle, dominaient plutôt cette défense et tout. Mais des petits détails, beaucoup de drops des receveurs des Cowboys, oui. Ça n'a pas aidé. Et puis, en effet, cette ligne défensive qui s'est... qui vraiment s'est réveillé à la fin, à l'image d'un Brandon Graham qui réalise deux sacs, enfin je crois qu'officiellement il doit en avoir un et demi, mais qui réalise deux sacs sur le dernier drive, alors qu'on l'a pas vu de la saison, bah c'est un peu à l'image de cette défense qui trouve toujours un moyen de s'en sortir, et finalement ils se sont fait marteler, mais toute la soirée, tu as dit, ils prennent plus de 400 yards, et à la fin tu te dis bon. Ils ont pris 23 points contre une des meilleures attaques de la Ligue. Bon, il y a pire, quoi. C'est pas catastrophique. Oui.
C'est ça, au niveau des points, quand même, au final, c'est pas une hémorragie. C'est pas une hémorragie terrible. Et pourtant, tu l'as dit, les stats, Dak Prescott, 29 sur 44, 374 yards dans les airs, 3 touchdowns, aucune interception. CeeDee Lamb, 11 réceptions, 191 yards, il fait un match énorme. Par contre, au sol, ça cale un peu. Est-ce que c'est pas ça aussi qui leur manque à Dallas par rapport aux années précédentes, ce jeu au sol un peu plus dominant pour s'asseoir dans ces matchs-là? Philadelphie fait pas un énorme match au sol, mais mine de rien, il y a un peu plus d'équilibre.
Oui, après, t'affrontes la meilleure défense au sol de la Ligue. Donc, c'est peut-être aussi. Pas sur ce match-là que c'est le plus impactant, mais par contre, je te rejoins que ça reste malgré tout une constante sur l'ensemble de la saison. Le jeu au sol de Dallas n'est pas un facteur. Et Tony Pollard, depuis qu'il est devenu le titulaire indiscutable, a un peu de mal à tenir son rang, on va dire ça comme ça.
En effet, Jalen Hurts est à 207 yards pardon, dans les airs, 2 touchdowns, aucune interception. Il y a 109 yards au sol, c'était ça les 109 dont je voulais parler. Donc il y a du jeu au sol, il y a 33 courses, il y a un Jalen Hurts à 23 passes, il y a le petit touchdown qui va bien à AJ Brown. Là, on est dans l'efficacité maximale pour le coup, parce que les stats sont beaucoup moins ronflantes, mais on est quand même dans une forme d'efficacité.
Ah bah, Jalen Hurts, sur les deux derniers matchs, si on compte les touchdowns au sol, je pense qu'en tout, il doit faire 7 touchdowns pour 0 interception, alors qu'il est clairement sur une jambe, hein, il boite, hein. Il peut à peine marcher, enfin, on le voit tous, c'est presque héroïque ce qu'il a donné. Après, tout le monde a participé, il n'y a pas... un joueur que tu vas sortir du lot. DeAndre Swift, il fait ses 70 yards. Et G. Brown, il fait ses 70 yards. Devonta Smith, il fait ses 50 yards. Dallas Goedert fait ses 50 yards. Il n'y a pas un joueur où tu t'es dit vraiment... Parce qu'on a vu ces 6 matchs d'affilée à 125 yards, blablabla, de G. Brown. Là, ça n'a pas été le cas. Ça a été vraiment une victoire collective. Et ce qui a fait la différence par rapport au reste de la saison, c'est pas de ballon perdu. Bon, je l'ai dit avec un peu de chance, mais pas de ballon perdu. Et... les Eagles étaient quand même 18e de la Ligue en gestion de la zone rouge en attaque avant ce match. Là, ils vont 3 fois dans la zone rouge, ils marquent 3 touchdowns. Bah, c'est sûr que quand tu sors avec 7 points à chaque fois, c'est plus facile.
3 des 4 drives font au moins 11 actions aussi. On est dans un truc hyper construit sur les 3 des 4 drives de touchdown. Hein.
Oui, la plupart du match, mais ils finissent quand même sur 3 three and out. Ouais. Donc, ils ont quand même calé en fin de match.
Mais c'est vrai que quand ça marche, je veux dire, pourquoi je parle de ces drives longs, c'est parce qu'au final, ils ont quand même moins de yards, beaucoup moins de yards, mais ils ont gardé le ballon. Alors, on va dire le même temps, parce que ça se joue à 20 secondes, mais ils arrivent à avoir la même possession en ayant finalement 100 yards en moins et en ayant, je suis en train de chercher le nombre d'actions, total plays, voilà, ils ont joué 11 actions de moins offensivement, et pourtant, il y a le même temps de possession.
Oui, j'entends bien. Après, moi, je pense que quand ils récupèrent la balle à 3:43 de la seconde mi-temps, où il y a déjà 28-23, les Eagles de l'année dernière, ils mangent horloge et c'est fini. Les Eagles de cette année, ils font three and out et ils se mettent en difficulté. Donc, bon.
Et alors, c'est quoi la différence avec l'année dernière pour toi?
Une efficacité du jeu au sol qui est quand même beaucoup moins franche. En début de saison, ça allait bien, ça s'est dégradé au fil des semaines. Et puis un Jalen Hurts beaucoup moins mobile, hein, clairement il pouvait à peine courir. Donc c'est vrai que malgré tout, finir sur 3 three and out, tu vois, bon le troisième, tu te dis, tu manges horloge, le premier, tu te dis, ils sont à 1 yard de end zone si tu veux, mais ça fait quand même 3 de suite, et le deuxième est assez sale. Après, bon, encore une fois, l'attaque, elle marque 28 points, elle fait son travail, c'est plus la défense qui a connu des hauts et des bas, et qui a failli coûter le match avec des fautes stupides sur le dernier drive.
Pour Dallas, on va boucler. C'est quand même une équipe qui garde du potentiel. On est à 5-3. Est-ce qu'on est dans la même configuration que les autres années? C'est-à-dire qu'on connaît le potentiel. On attend juste de voir s'ils peuvent tout assembler en play-off et sur certains gros matchs. Là, ils ont montré qu'ils pouvaient jouer quasiment les yeux dans les yeux avec l'équipe qui a le meilleur bilan de la ligue.
Oui, le 5-3 est un peu dur en fait. Parce qu'ils
jouent pas par rapport à d'autres équipes, oui.
Ils jouent pas comme une équipe à 5-3. Bon, après, ils ont perdu contre les Niners et les Eagles. C'est pas scandaleux, tu vois. Bon, certes, il y a l'accident contre les Cardinals, mais ils jouent pas comme une équipe à 5-3. Non, ils ont prouvé qu'ils seront dans le pool des équipes. D'ailleurs, on peut dire, hein, pour moi, il y a 4 équipes qui sont dans ce pool, c'est-à-dire les Eagles, les Cowboys, les Niners et les Seahawks, qui, pour moi, peuvent rêver au Super Bowl. Bon, voilà. Mais ils sont dans cette dimension-là. Et c'est pas parce qu'il y a une équipe à 8-1 et une équipe à 5-3 qu'il y a tellement de différences. Je pense que les deux équipes seront en play-off et que s'ils se rencontrent, ça sera un très gros match.
Tu l'as bien dit, les Eagles sont en effet à 8-1. C'est le meilleur bilan de la NFL. Juste pour tirer un trait d'union avec ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire les Ravens. Ce qui est meilleur pour toi, du coup, si j'ai bien compris, du côté de Baltimore, c'est qu'il y a une défense qui est à l'heure actuelle plus constante et un jeu au sol qui est aussi plus puissant.
Oui, la défense surtout. C'est-à-dire ils sont bons des deux côtés du ballon de manière régulière en fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu mets demain un Ravens Eagles, j'ai plus envie de partir sur les Ravens parce que je trouve qu'il y a plus de certitude.
Après les Ravens, on sait qu'ils sont capables de nous perdre un match de nulle part. Mais en tout cas pour l'instant c'est régulier, on va pas revenir sur eux. Mais c'est une bonne observation. Revanche en semaine 14 pour ces deux équipes entre Philadelphie et Dallas, ils se retrouveront en semaine 14, ce qui est pas si loin, hein. Là, c'est la semaine 10 là qui arrive, donc ça va aller très très vite. On termine avec Chiefs Dolphins 21-14 pour les Chiefs. C'était censé être un carton offensif du côté de Francfort. Les Dolphins arrivent avec la meilleure attaque dans quasiment toutes les catégories statistiques de la ligue. Et puis finalement, premier drive, touchdown Chiefs. Et derrière, on a eu un festival de punts. Miami menait 21-0 à la pause. 21-14 à la fin du troisième quart. Ils se réveillent un peu. Ils ont eu un drive pour aller égaliser. Mais Tua Tagovailoa a perdu le ballon sur la quatrième tentative. Prestation défensive plutôt convaincante de Kansas City, Victor. C'est pour eux le trophée de joueur du match, entre guillemets. C'est toute la défense.
Comme depuis le début de la saison.
Ouais, non, mais
Kansas City est une équipe... Alors, faut se poser hein, sur un siège pour le dire, parce que mais Kansas City est une équipe défensive. Écoute, je sais pas comment dire. Après, bon, il y a effectivement cette action un peu symbolique du 21-0 là, avec ce fumble récupéré, cette passe latérale, etc. Je trouve que globalement, Kansas City, la première mi-temps était bonne des deux côtés du ballon. Après, en deuxième mi-temps, l'attaque s'est arrêtée de jouer, comme souvent cette saison. Et oui, il a fallu que cette défense tienne à bout de bras. Et ce qui est assez intéressant, c'est comme tu dis, c'est pas un ou deux ou trois gros joueurs. C'est toute une équipe qui semble vraiment coachée à la perfection par Spagnuolo. Peut-être que Spagnuolo, ils lui ont pas dit que c'était la saison régulière. Ils lui ont dit non, mais en fait, cette année, c'est les playoffs dès la semaine 1. Et du coup, il s'est motivé, tu vois, je sais pas. Mais clairement, on a l'impression de voir une des défenses est mieux coachée de la ligue.
T'as raison de le dire, parce que mine de rien, limiter... Enfin, de toute façon, comme tu dis, quand tu limites Miami à 14 points, c'est que t'es une équipe défensive, a priori. Alors, ça arrive sur un match ou quoi, mais là, c'est pas du tout un événement isolé. Ils encaissent 14 points cette semaine. Les semaines d'avant, ils ont encaissé 24... 17, 8, 20, 20, 10, 9 et 21. Donc voilà, ils ont pris que deux fois plus de 20 points. Quand tu es à ce niveau-là, c'est clairement une équipe défensive. Après, je suis d'accord avec toi, Spagnuolo a quand même fait un super boulot cette saison et sur ce match, parce que moi je trouve que la dernière action, elle est symbolique du match, c'est-à-dire que il y a la quatrième, c'est une quatrième et 10, donc c'est pas une quatrième facile évidemment pour Tagovailoa, mais tu sens que ça va blitzer, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je suis devant l'écran à ce moment-là, je vois que ça va blitzer. Et je sais pas si Tagovailoa le sent, mais tu vois, l'erreur, elle vient pas de nulle part, quoi. Je pense
que ce soit pour le snap. Je pense mais qu'il l'analyse mal.
Voilà, non mais ça va venir quoi, il y a une tension, il y a un truc, et c'est là aussi où tu vois la différence entre l'équipe qui a l'habitude, le coordinateur qui a l'habitude, et l'équipe qui essaye de franchir ce palier, de se mettre au niveau des meilleurs, et qui a quand même visiblement du mal. On va reparler de leur bilan maintenant contre les équipes en positif, hein, qui est à 0-3, mais je trouve que ouais, il y a un truc qui est vraiment très très fort, et puis la cerise sur le gâteau, c'est quand même en effet le fumble provoqué par Trent McDuffie en première mi-temps. Là encore, c'est un moment décisif, mine de rien, parce qu'il y a 14-0, Miami en train de driver pour revenir, ils peuvent recoller un petit peu avant la pause. McDuffie qui arrache le ballon à Tyreek Hill et qui latéral pour Brian Cook. Alors ça, c'est merveilleux quand ça arrive de temps en temps qu'ils ont la lucidité, parce que bah, la passe, elle te libère le mec et il va au touchdown. On est d'accord, c'est de l'action. Est-ce que t'aimes bien quand il y a cette petite latérale, ou est-ce que c'est trop osé pour toi?
Non, moi je trouve qu'il n'y en a pas assez.
Ouais, on est d'accord.
Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et Chiefs, pour le coup, sont parmi les équipes qui en font le plus. Hein. On sait que Travis Kelce aime bien en faire quelques-unes dans la saison. Je trouve que c'est une action qui est un peu trop négligée. Mais après, c'est sûr que, bon, c'est toujours pareil. Hein. Si tu l'as fait et que tu prends un fumble, tout le monde va dire que t'es un abruti. Bon, c'est malheureusement le jeu.
On a parlé de la bonne tenue défensive de Kansas City. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans les choix de jeu de McDaniel? Moi, je trouvais sur le coup du début de match que ça oubliait quand même un peu le jeu au sol. Il y a Chris Jones et il y a du monde en face, mais c'est quand même leur identité. Je sais qu'il y a Tagovailoa, Tyreek Hill, etc., mais c'est quand même une bonne partie de leur identité. Et à la fin du match, t'es à 5,6 yards par course, ça marche plutôt bien. C'est aussi avec Mostert que tu reviens dans le match en deuxième partie de rencontre. J'ai pas bien compris en fait pourquoi ça insistait si peu en début de match sur le jeu au sol.
Je suis un peu comme toi. Je suis un peu sceptique parce qu'en effet, le jeu au sol marche bien malgré l'absence d'Evan Etchain. Et j'ai pas compris exactement pourquoi McDaniel voulait absolument être la caricature de lui-même et tenter des jeux aériens spectaculaires. J'ai pas en tête que la défense de Kansas City soit particulièrement plus friable en jeu aérien qu'en jeu à course. Donc j'ai pas non plus compris. Et c'est vrai que voir que Kansas City a couru plus que Miami, c'est assez rigolo. Mais comme tu le dis, Mostert, il a fait son match. Après, moi, ce qui commence à m'inquiéter, c'est que, bon, au quart de la saison, j'ai dit que Tagovailoa était favori pour être MVP. Bon, depuis, ça galère.
Ouais, c'était pas très tranchant sur ce match, hein, clairement.
Oh, ça galère, c'est dur, hein.
Et c'est aussi pour ça que je trouvais étonnant de ne pas aller vers le jeu au sol. Parce que tu l'as dit, en plus, l'ironie du truc, c'est qu'à un moment, les Chiefs se décident à être un peu plus équilibrés. Et c'est ça qui leur permet de mettre le deuxième touchdown et de se reprendre un petit peu de rythme. Et c'est ce que Miami a fait trop tard, j'ai l'impression. Mais oui, Tagovailoa a fait pas une impression visuelle incroyable sur ce match. Je disais qu'en fin de match, on voit que c'est pas 100% de sa faute, hein, le fumble. Il y a la transmission qui est pas réussie. Mais c'est symbolique, quoi. Les grands quarterbacks, on en parlera peut-être même demain avec des jeunes quarterbacks. Bah, dans les moments chauds, ça prend le ballon, ça lance, ça se transcende. Tagovailoa, on a quand même encore du mal à avoir des moments signature. Je me rappelle pas, tu vois, de drive un peu signature en fin de match, de grands matchs contre des grosses équipes. Quand ça déroule contre des équipes un peu plus faibles, oui, ils peuvent être très très forts, mais j'ai l'impression que quand même Miami, là, depuis un an et demi, tu vois, a du mal à avoir cette victoire un peu signature.
Bah,
ça aurait pu être là,
oui.
Tu vois, si...
Non, mais là, ça commence à devenir une vraie constante, en fait. C'est-à-dire fort avec les faibles et faible avec les forts.
Ce qui est déjà bien, tu vois, c'est la première étape, mais la deuxième étape quand tu veux devenir un prétendant au titre, c'est d'avoir des victoires signatures contre des gros, quoi, parce que là tu perds contre les, donc c'est les Bills, les Chiefs et la troisième équipe qu'ils ont joué, c'est les Eagles, voilà.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est le genre d'équipe, s'ils continuent comme ça, encore une fois, ils ont du temps mais s'ils continuent comme ça, c'est le genre d'équipe qui va facilement se qualifier en playoff et qui va facilement se faire éliminer des playoffs, en fait. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont une sorte de plafond de verre, à défaut d'une meilleure expression, et qu'ils n'arrivent pas à passer au-dessus.
Tu veux dire qu'ils deviennent le Dallas de l'AFC ?
Peut-être. Peut-être, peut-être. Après, Dallas, c'est plus un plafond de verre, là. C'est le plafond, il est en béton renforcé, hein, depuis 30 ans. Mais oui, oui, oui.
Ils sont enfermés dans la maison d'Alaska. Kansas City en attaque, on va quand même dire un mot. Tu l'as dit, c'est une équipe défensive. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de surprise en attaque. C'est-à-dire que Patrick Mahomes fait ce qu'il peut. S'il y a Travis Kelce, c'est bien. S'il n'y a pas Travis Kelce, bon, bah, faut trouver des solutions. Et on distribue à un peu tout le monde. Le premier drive était caractéristique de ça. C'est-à-dire qu'il a touché 5 ou 6 personnes différentes.
Il en touche 9 sur le match, ouais.
Voilà. Alors, ce qui est très bien dans l'absolu de dire qu'on distribue le ballon, mais ça veut aussi dire que t'as pas un numéro 1 et un numéro 2 clair, tu vois. Moi, de voir Sky Moore, au bout d'un moment, moi, je les confondais, hein, quand je l'ai à l'écran. C'était, attends, c'est Moore. Ah non, c'est Rice. Ah non, c'est Toney. Ah non, c'est Watson. Ah non, c'est... Mais c'est bien, mais au bout d'un moment, je crois que ça montre quelque chose aussi. Ça veut dire que t'as pas un vrai receveur numéro 1 et je suis même pas sûr que t'as un vrai receveur numéro 2. Et donc, c'est limite, t'as l'impression qu'au début, il faut qu'il les teste un peu tous, tu vois, en début de match, voir lequel est chaud et lequel on va exploiter aujourd'hui. Et c'est pas forcément un fonctionnement viable, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression aussi que c'est là où on a vu ce qu'était cette équipe, quoi. C'est-à-dire que t'as un très bon quarterback. Quand il est sérieux et qu'il perd pas de ballon, ça passe. Et heureusement que t'as une meilleure défense cette année, quoi.
Mais c'est le cas depuis le début de la saison. En fait, comme tu le dis, c'est bien sur un match ou deux de pouvoir compter sur 7, 8, 9 cibles. Mais quand ça devient caricatural et toutes les semaines, ça veut dire si t'as 9 receveurs, c'est que t'as pas de receveur, quoi. Enfin, je veux dire, le meilleur receveur de ce match, pour les Chiefs, c'est Noah Gray, tight end, avec 34 yards.
Les stats sont folles. Hein. Gray à 34, Moore à 33, McKinnon à 22, Valdez-Scantling à 22, Toney à 18, Rice à 17, Watson à 15, Kelce à 14, Hardman à 10.
Non, mais
ils
c'est
se tiennent tous entre 10 et 34.
Mais c'est ça. Après, j'ai envie de dire bravo à Mahomes qui arrive à tirer le meilleur de ce groupe. Mais si t'avais un autre quarterback que Mahomes, c'est pas à 7-2 que tu serais. Hein. C'est à 4-5 ou c'est un truc comme ça. Je veux dire, t'as vraiment l'impression du mec qui... c'est le meilleur au monde. Mais on lui dit, par contre, on va pas te faire de cadeau, quoi. T'es le meilleur marathonien du monde, mais par contre, tu dois courir à pieds nus. Bon chance.
Ouais, j'ai l'impression qu'il est pas seul fautif non plus, au sens où c'est pas comme s'ils essayaient pas. C'est-à-dire que Sky Moore, c'est quand même un choix du deuxième tour. Toney, c'est un ancien choix du premier tour qu'ils font venir. Rashi Rice, c'est un deuxième tour. Je suis en train de vérifier Justin Watson. Bon, c'est un cinquième tour, mais tu vois, il y a deux mecs du second tour, un mec qu'ils ont fait venir sur un transfert qui était un ancien premier tour. Bon, ils essayent, mais ils ont pas l'air de trouver le bon, quoi.
Ils essayent, mais ils y arrivent pas. C'est un peu toujours le même problème. C'est-à-dire, essayer, c'est bien. Réussir, c'est mieux. C'est un peu comme les Giants. On peut pas leur reprocher de pas avoir essayé sur la ligne offensive. Ils sélectionnent un lineman au premier tour tous les ans. Mais bon, il y a un moment, quand tu draftes mal, tu draftes mal. Et par contre, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ils ont drafté que des pépites depuis 4 ans en défense.
Oui, c'est vrai.
Et ils arrivent pas à drafter un mec correct en attaque. C'est vraiment paradoxal, parce que à l'inverse, en défense, t'as l'impression que t'as 3 mecs à chaque poste, qu'ils ont tous du talent et tout. Et c'est vrai que le rapport de force est totalement inversé. Et t'es sur une équipe de Kansas City aujourd'hui, où en gros, l'idée c'est de dire, bon, la défense va prendre 21 points maximum, il faut que l'attaque arrive à en mettre 22. Alors qu'à une époque, à l'époque de la grande attaque de Mahomes, on se demandait s'il en mettait 35 ou 50, tu vois. C'est quand même pas pareil.
C'est pas une équipe qui est hyper. Je suis en train d'essayer de me remémorer, mais j'ai pas à souvenir qu'ils soient hyper ambitieux sur ce qui est échange, transfert, etc. Mais j'ai l'impression qu'à un moment. Mais c'est pas vraiment ambitieux pour moi. Ça reste du test, tu vois. Enfin, il a pas marché. On va essayer de voir. Je me dis qu'il y a peut-être un moment où tu t'en arrives. J'ai pas le nez sur leur salary cap, évidemment, mais tu vois, le coup d'AJ Brown pour les Eagles, par exemple, c'est de l'or, tu vois.
Oui.
Et d'être à l'affût de la bonne affaire s'il y a un bon receveur disponible. Il y a un moment où, quand tes choix de draft ils marchent pas comme ça, il y a un moment où il faudra peut-être te poser la question de dire, bon bah voilà, il va peut-être falloir qu'on se bouge, qu'on soit vraiment attentif de est-ce qu'on peut pas faire une offre quelque part ou aller chercher un mec peut-être même un peu plus vétéran ou quelque chose comme ça. Mais
ouais, mais ça c'est pour l'année prochaine. Cette année,
pour l'année prochaine. Ah bah cette année c'est coincé. Mais je veux dire voilà, ça aurait peut-être pu être à envisager un peu plus tôt. Ou en tout cas, c'est des choses qu'il faudra regarder à l'avenir parce que tu peux pas rester comme ça, tu vois. Ou alors, ils auront peut-être monté un échange pour un choix de premier tour incroyable en avril, mai prochain. Mais Je leur souhaite parce que là, ouais, c'est trop compliqué. Et en plus, t'as vraiment, c'est pas non plus des mecs qui créent des trucs incroyables. Surtout la comparaison avec Tyreek Hill en face, forcément, elle fait mal quand il est de retour en face. Mais t'as pas un joueur qui peut créer des séparations incroyables ou qui peut étirer le terrain vraiment à fond. Enfin, c'était souvent des petites passes. On espère qu'ils gagnent des yards après réception. Et puis voilà, c'était quand même pas incroyable. Bon, en tout cas, ils sont à 7-2 aussi. On avait que des grandes équipes aujourd'hui. Donc vous avez vu, on a l'impression qu'on pinaille, mais ils ont tous des bilans incroyables hein, quand même. Kansas City, c'est 7-2. Miami, c'est 6-3. Donc ça reste encore des très bonnes équipes. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 666. On parlera de toutes les autres équipes dans le débrief de la semaine 9. Demain, ne ratez pas ça. On parlera notamment des grandes performances de CJ Stroud. Il y a plein de choses à dire sur un rookie qui a sorti une perf incroyable, Victor. Victor, merci beaucoup.
Merci à toi. Et oui, je recommande le podcast de demain parce que ça a été pour moi la meilleure semaine de NFL de l'année.
Ok. Ah ouais, tu vois, j'aurais...
Ah ouais, moi j'ai adoré. Mais c'est parce que t'as pas vu, t'as pas pu voir la séance de 19h où il y a eu 462 fumbles. T'as loupé
ouais,
ça.
C'est ça aussi.
T'as loupé
c'est
la fumble partie. C'est
on le dit souvent, c'est un peu le truc étrange quand on est à M6, c'est que comme on suit pas forcément bien les matchs, on découvre les scores et ça nous fait un peu bizarre. Mais ouais. Bon, en tout cas, je suis comme toi. Elle n'est pas encore enregistrée, mais je recommande l'émission de demain. J'espère qu'elle sera pas mal. On te retrouve pour la draft cette semaine, Victor.
Oui, avec Nitti, ouais. Tout à fait. Et on n'a pas encore décidé du sujet.
Très bien messieurs. Bon, en tout cas, nous, vous avez l'habitude, le débrief complet demain, la preview le jour d'après, la draft et la fantasy. Et on se retrouve pour le fauteuil ensuite dimanche. Merci beaucoup Victor, merci à tous. À très bientôt sur les ondes de TD Actu. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto, les meilleures recettes en TD. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.